Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chemin de pensée, les neveux de René. Eh bien, nous reprenons le dialogue avec les philosophes et avec les grands auteurs qui ont été proches de la philosophie. Et cette fois-ci, nous allons faire un petit peu comme avec Camus, c'est-à-dire que, au lieu d'aborder un philosophe de front, nous allons demander à un grand auteur de nous indiquer, de nous mettre sur la voie d'un autre philosophe. Voilà. Alors, on va pas vous dire tout de suite qui est ce grand auteur. On va simplement lui donner la parole. Vous êtes avec Anne Bonneau, Nazim Fattès et Sylvain Contasso-Vivier. Qui va nous lire ce début de texte.
Oui. Mais l'ordre que j'ai tenu en ceci a été tel. Nous verrons plus tard quel a été cet ordre. Nous avons bien le temps de le voir. Ce qui importe, ce qui a marqué le monde, c'est cette résolution de tenir un ordre, et c'est de l'avoir annoncé en de tels termes. Premièrement, j'ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes de tout ce qui est ou qui peut être dans le monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu seul qui l'a créé, ni les tirer d'ailleurs que de certaines semences de vérité qui sont naturellement en nos âmes. Après cela, j'ai examiné quels étaient les premiers et les plus ordinaires effets qu'on pouvait déduire de ces causes. Et il me semble que par là j'ai trouvé des cieux. Trois petits points. Eh bien je dis, qu'importe. Nous savons bien qu'il ne les a pas trouvés, les cieux. On les avait trouvés avant lui. Ou plutôt, il s'était trouvé tout seul. La création a eu besoin de son créateur pour être, pour devenir, pour naître, pour être faite. Elle n'a pas eu besoin de l'homme, ni pour être, ni même pour être connue. Les cieux se sont bien trouvés tout seuls, et ils ne se sont jamais perdus. Et ils n'ont pas besoin de nous pour se retrouver perpétuellement dans leurs orbes.
Merci. Alors voilà, on entend deux auteurs, un philosophe et un grand poète et littérateur. Alors qui sont-ils ?
Alors le premier, c'est Descartes, c'est celui qui voulait trouver les cieux.
Oui.
Et le deuxième, qui le critique gentiment, c'est Charles Péguy.
C'est Charles Péguy. Alors, Anne, peut-être tu peux nous donner quelques éléments factuels sur Charles Péguy.
Oui, donc Charles Péguy est né à Orléans. C'est important quand même parce qu'il a beaucoup écrit sur Jeanne d'Arc. Donc, il est né à Orléans en 1873 et il est mort en 1914. Ça a été malheureusement le lieutenant Péguy, un des premiers tués de la Grande Guerre. C'était un fils de rempailleuse de chaises et de menuisier. Et il a été élève à l'École normale supérieure, où il a été élève de Bergson. Donc il est connu pour, évidemment, ses poésies, pour être un grand pamphlétaire.
Donc le texte qui vient d'être lu par Sylvain, c'est la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne. Mmh. Et curieusement, il ne s'agit pas trop de Descartes, hein, c'est ça. Ça commence par parler de Descartes,
un petit peu au début, ouais.
Mais après ces trois pages que nous allons lire ensemble, on ne va pas trouver beaucoup de Descartes. Je précise pour les auditeurs que la séance, l'émission que nous faisons est une introduction à la pensée de Charles Péguy et que lors des prochaines émissions, nous accueillerons Anthony Feneuil qui a fait sa thèse sur Bergson et donc qui connaît très bien Péguy, l'œuvre de Charles Péguy. Et nous ici, on va simplement regarder le début de cette note conjointe en espérant que les auditeurs se procurent le texte qu'on peut trouver en ligne ou bien sûr dans les bonnes librairies et puis commence à le lire. Bon, c'est un texte qui est assez long, hein, qui fait peut-être 300 pages, mais au moins qu'il commence à lire pour découvrir ce texte qui est magnifique. Toi, Anne, il t'a beaucoup touché, hein, ce texte.
Oui, énormément, parce que l'auteur a énormément d'humour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi son style. Il a un style très particulier qui est fait de répétition, qui parfois est un peu agaçant, mais qui est toujours très vif et donc qui va vraiment droit au but.
Et toi, Sylvain, tu disais qu'au contraire, c'est ce style-là.
Parfois, oui, ça peut générer une forme d'impatience, en fait, oui. Justement. Alors, il y a effectivement l'humour, on le sent bien, il est là, on le voit bien. Par contre, il y a parfois beaucoup de répétitions qui peuvent être un peu longues.
Oui.
Mais
oui.
C'est le but cherché,
c'est
en tout cas.
Voilà, hein, c'est la cherché, répétition, voilà. C'est totalement assumé, on va dire.
Il y en a qui l'ont, je crois, comparé à des mélopées, je crois.
Ah oui, oui. Oui. Alors, on continue la lecture. À propos des cieux, donc, On les avait trouvés avant lui. Eux-mêmes, ils s'étaient trouvés avant lui. Je dis, qu'importe. L'audace seule m'intéresse. L'audace seule est grande. Y eut-il jamais audace aussi belle et aussi noblement et modestement cavalière, et aussi décente et aussi couronnée? Y eut-il jamais aussi grande audace et atteinte de fortune? Y eut-il jamais mouvement de la pensée comparable à celui de ce Français qui a trouvé les cieux? Et il n'a pas trouvé seulement les cieux, il a trouvé des astres, une terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je trouve prodigieux qu'il ait trouvé une terre. Car enfin, s'il ne l'avait pas trouvée, et non seulement une terre, mais même sur la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des minéraux, et quelques autres telles choses qui sont les plus communes de toutes et les plus simples, et par conséquent les plus aisées à connaître. Puis, lorsque j'ai voulu descendre à celle, etc., etc. Alors seulement, il ne les a plus trouvés et il a eu besoin que la discrimination de l'expérience vînt au-devant de lui. Jusqu'alors, dit-il, croit-il, il n'en avait pas eu besoin. Il suivait la route royale qui ne trompe pas. C'est seulement en arrivant dans cette forêt de Fontainebleau qu'il a hésité à la croix du grand veneur. Alors, comment vous comprenez cette critique caustique de Descartes que fait ici Peggy?
On a l'impression que là, ce qu'il dit, c'est que Descartes ne nous dit pas tout, d'une certaine façon, sur la façon, ou en tout cas sur ce qu'il a trouvé, en fait, ou la façon dont il l'a trouvé. Ce qu'on entend, c'est qu'au final... Alors, il a trouvé les choses les plus élémentaires, les plus simples, d'abord, oui, au bout d'un moment, il a fallu qu'il en vienne à l'expérience.
Oui.
L'expérience sensible, hein, bien
oui,
sûr.
Oui.
Et ce qu'a l'air de nous dire Peggy, c'est que c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, en fait.
D'accord. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu
oui,
prendrais
pareil, de... Ça a été beaucoup reproché à Descartes, ça, hein, cette manière comme ça de vouloir tout induire, tout partir induire en partant de rien sauf de sa méthode. Il y a aussi Pascal qui l'a beaucoup critiqué là-dessus. Et puis, alors moi, j'aime bien aussi les petits traits d'humour comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je trouve prodigieux qu'il ait trouvé une terre, car enfin... S'il ne l'avait pas trouvé.
Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas trouvé?
Oui.
Où est-ce qu'on serait? On serait dans le vide interstitial. Je ne
sais pas.
On ne sait pas où il... Mais au fond, la démarche scientifique, elle procède comme ça.
Beaucoup de gens qui disent qu'on a besoin justement d'avoir vu quelque chose, de l'avoir senti, et c'est après qu'on déduit, et c'est après qu'on trouve la méthode.
Oui.
Plutôt le contraire.
Oui.
Plutôt que le contraire. Je pense qu'il y a un peu des deux, forcément.
Quel est le rêve de la méthode scientifique? Ce serait finalement de trouver l'équation qui régit les particules élémentaires pour expliquer comment se forment les atomes, puis trouver comment les atomes font pour faire des molécules, puis les molécules pour faire des macromolécules, puis les macromolécules pour faire des cellules, puis les cellules pour faire des organismes, les organismes pour faire des sociétés, et ainsi de suite. C'est ça ce que cherche la science.
Oui, mais elle le fait souvent après des observations qui lui ont permis de déduire des choses. C'est comme le fameux, peut-être faux, la fameuse image de Newton et de la pomme, qui est peut-être faux, je ne sais pas. Mais voilà, elle le fait après qu'il y ait eu des choses qui sont intervenues.
Oui, alors ça dépend aussi de quelle science on parle, parce qu'effectivement, en physique, qui finalement s'intéresse à décrire la nature, on ne peut pas se passer de l'expérience.
Oui.
Puisque, on part de ça. On part vraiment de ce que l'on observe et on essaie de décrire ce que l'on observe.
Certes, mais on cherche quand même à déduire le complexe du simple, le composé de l'élémentaire.
Oui.
Et donc, moi, je trouve qu'il y a dans cette critique de Peggy, finalement, une critique même peut-être de la façon dont procède la science. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut connaître le composé si je connais les parties? C'est un peu ça, parce qu'au fond, c'est ça. Ce que va dire Descartes, peut-être, on peut d'emblée, avant d'aller plus en avant... Lire Descartes. Mmh. On le fait ?
Vas-y.
Allez, je prends mon discours de la méthode. Je demande aux auditeurs une seconde de patience. Voilà. Alors, il dit que Descartes, dans son discours de la méthode, parle des lois qu'il a cherchées. Puis il nous dit « Mais pour ce que j'ai tâché d'en expliquer les principales dans un traité que quelques considérations m'empêchent de publier. Là, il parle d'un traité qui s'appelle Le Monde. Le traité du Monde, il ne l'a pas publié suite à la condamnation de Galilée en 1633. Alors, il est dit, je ne le saurais mieux faire connaître qu'en disant ici sommairement ce qu'il contient, donc ce traité. J'ai eu dessein d'y comprendre tout ce que je pensais savoir avant que de l'écrire, tout sans la nature des choses matérielles. Alors, c'est les choses matérielles, mais tout de même que les peintres, ne pouvant également bien représenter dans un tableau plat toutes les diverses faces d'un corps solide, en choisissant une des principales qu'ils mettent seuls vers le jour et ombrageant les autres, ne les font paraître qu'autant qu'on peut les voir en la regardant. Ainsi, craignant de ne pouvoir mettre en mon discours tout ce que j'avais dans la pensée, j'entrepris seulement d'y exposer bien amplement ce que je concevais de la lumière, puis à son occasion d'y ajouter quelque chose du soleil et des étoiles fixes, et ainsi de suite, des cieux à cause qu'ils la transmettent, des planètes, des comètes, de la Terre, à cause de ce qu'elles la font réfléchir, et en particulier de tous les corps. Et comme ça, il arrive à l'homme, à la fin. Donc, c'est vraiment la démarche scientifique de dire, bon, je veux parler que d'une chose très simple, la lumière, et puis je vais partir, finalement, du cosmos, de la Genèse, je confais tout ça, et puis j'arrive à la Terre. Et Peggy se moque de ça, quoi.
Ben oui.
Oui. Et il dit plus tard Descartes, hein, pas Peggy, je me résolus de laisser tout ce monde à leur dispute et de parler seulement de ce qui arriverait dans un nouveau monde, si Dieu créait maintenant quelque part dans les espaces imaginaires assez de matière pour composer, qu'il agita diversement et sans ordre les diverses parties de cette manière, d'une sorte qu'il en composa un chaos aussi confus que les poètes en puissent feindre, et que par après il ne fit autre chose que de prêter son concours ordinaire à la nature et la laisser agir selon les lois qu'il a établies. C'est vraiment Descartes, le premier, à mon avis, à proposer ce Dieu qui mélange tout. Et il a fait les bonnes lois, et finalement, ça va créer une terre et un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'est pas encore dans cette vision-là du monde ?
Ça, c'est difficile de répondre à ça directement comme ça.
C'est difficile. Oui. Moi, c'est ce que je lis. Je lis dans Peggy une critique finalement forte de la façon
dont... Alors, je ne sais pas si... Là, on va peut-être trop loin d'une certaine façon par rapport à ce qu'on a lu.
Ouais.
Parce que là, en tout cas, dans ce que Peggy dit au début, ce qu'il remet surtout en question, c'est le fait que Descartes aurait mis de côté l'expérience au début de sa méthode. Et c'est vraiment ça qu'il dit au départ, quoi. Oui, ce qu'on entend, c'est plus ça.
Pas seulement l'expérience, hein, c'est connaissances, hein, les connaissances qu'il avait. Hein.
Oui, mais justement, c'est, tu vois, il dit bien.
Qui est une forme d'expérience.
Au bout d'un moment, il a eu besoin que l'expérience vienne au devant de lui.
C'est-à-dire, ça ne suffit pas de tout déduire, quoi.
C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que Peggy, j'ai l'impression, ce qu'il dit, c'est dès le début, il avait besoin de ça, Descartes.
Ouais.
Il ne pouvait pas s'en passer dès le départ.
Ouais.
Donc, voilà.
D'accord. Et toi, Anne ? Qu'est-ce que tu penses?
C'est l'idée. Hein.
Bon.
Oui.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Alors, Anne, qu'est-ce que tu nous as proposé?
Je propose Le Temps des Cerises, qui, je pense, est une des chansons les plus connues françaises, donc, qui a été écrite par Jean-Baptiste Clément, je crois 3 ans avant la Commune. Donc, la Commune, c'est ce qui s'est passé, les événements révolutionnaires qui se sont passés à Paris en 1870. Peggy est née en 1870, c'est un socialiste, donc il vivait à Paris, donc je pense que cette chanson peut bien convenir avec cet homme. Voilà.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle mon cœur seront tous en fête. Les belles auront cerises, sifflera bien mieux le merle au cœur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des de ce temps-là que je regarde au cœur une plaie ouverte. Et dans ma fortune, mes tantes offertes ne pourra jamais.
Chemin de pensée sur RCF.
Voilà, nous reprenons la lecture de la note conjointe de M. Descartes et la philosophie cartésienne par Charles Péguy. Eh bien, sans embâge, on va redonner la parole à Péguy par la voix de Sylvain.
Il est permis de se demander, nous l'avons fait nous-mêmes, si cette discrimination de l'expérience n'était pas venue au devant de lui et s'il n'avait pas eu besoin qu'elle vînt au-devant de lui beaucoup plus tôt. Qu'importe. Il croit. Il veut avoir déduit tout cela, et de Dieu même, à peine en passant par les principes ou premières causes, à peine en s'aidant des idées innées, de ces certaines semences de vérité qui sont naturellement en nos âmes, et qui elles-mêmes sont déduites, ou sensiblement, des principes et de Dieu.
Oui, alors je vais peut-être éclairer ce que dit Péguy en lisant une petite partie du discours de la méthode. Il dit, il y a peut-être quelque chose, un génie trompeur qui m'a fait croire à certaines choses. En fait, je me suis trompé. Et que se passe-t-il si un génie trompeur me fait croire à tout ce que j'ai cru jusqu'à présent? Et la seule façon qu'il a de sortir de cette espèce de marécage dans lequel il s'est plongé lui-même, c'est de voir qu'il y a quelque chose de plus parfait que lui qui existe et qu'il ne pourra pas mettre en doute. Et il dit à ce propos, ce qui ne tient pas du néant, ce ne pouvait être le même de l'idée d'un être plus parfait que le mien, car de la tenir du néant, c'était manifestement chose impossible. Et pour ce qu'il n'y a pas moins de répugnance que le plus parfait soit une suite et une dépendance du moins parfait, donc moi, qu'il y en a que de rien procède quelque chose, je ne la pouvais tenir non plus de moi-même, de façon qu'il restait qu'elle eût été mise en moi par une nature qui fût véritablement plus parfaite que je n'étais, et même qui eût en soi toutes les perfections dont je pouvais avoir quelque idée, c'est-à-dire, pour m'expliquer en un mot, qui fût Dieu. Donc, c'est cette idée-là que Descartes, dans son discours de la méthode, déduit l'existence du Dieu du fait qu'il y a quelque chose de plus parfait.
Oui, l'idée du mieux, du
voilà,
parfait.
Et du parfait qui existe. Alors, Anne, on peut lire la suite.
Nous savons bien qu'il n'eût pas trouvé Dieu, même s'il n'en avait pas entendu parler. Et s'il ne l'avait pas entendu parler. C'est-à-dire s'il n'avait pas eu, comme tout homme réellement métaphysicien, comme tout homme né métaphysique, entre parenthèses, et il faut le dire comme tout homme né chrétien et français, fin de la parenthèse, une certaine expérience de Dieu. J'irai jusqu'à dire une certaine expérience de l'événement de Dieu. L'expérience n'est pas venue au-devant de lui seulement jusqu'au commencement des choses qui étaient plus particulières. Elle est venue au-devant de lui jusqu'au commencement du commencement. Qu'importe. Descartes, dans l'histoire de la pensée, ce sera toujours ce cavalier français qui partit d'un si bon pas.
Ça, c'est magnifique, hein,
oui,
comme phrase.
Oui, c'est magnifique. Hein. Voilà. Ça nous parle beaucoup.
Voilà. Oui. Alors, c'est un cavalier, bon, qui, on le voit là, on le voit en train de galoper, et puis il va aller de France en Allemagne, en Hollande.
S'établir. Et puis on voit l'œil attendri et un peu moqueur de Péguy qui se penche sur lui.
Oui, mais effectivement. Mais il y a quelque chose de magnifique dans cette phrase. Il est parti d'un si bon pas, mais justement, c'est un cavalier, c'est pas un marcheur. Comment vous comprenez cette métaphore du cavalier?
Tu veux dire qu'il s'emballerait peut-être un peu?
Oui, voilà. Il y a, moi, pour moi, il y a l'idée de d'aller vite. Même quand on dit c'est cavalier, ça veut dire. Alors, voilà, moi je vois quelqu'un qui va peut-être un peu trop vite. Peut-être que.
Fonce un peu tête baissée.
Voilà. Foncez tête baissée. Foncez tête baissée. Il y a quelque chose de cet ordre. Bon, bah, tout en étant chevaleresque, hein, évidemment. Il y a ces deux aspects-là qui sont mêlés. Mais finalement.
Il a aussi une référence à la cavalerie un petit peu avant, quand il dit. Y eut-il jamais audace aussi belle et aussi noblement et modestement cavalière ? Donc, c'est aussi son audace qui est cavalière.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, on peut aussi s'interroger sur la façon dont procède la science. Si vraiment, elle a, comme on le pense dans Les Neveux de René ou comme on essaye de l'examiner, elle tire son impulsion de Descartes, est-ce que ça ne nous éclaire pas sur le fait que la science, le mouvement actuel de la science et de la technoscience, comme le disait Jean-Marc Lévy-Leblond dans ses studios même, vont quelque part un peu trop vite, quoi. On aimerait un peu que le cavalier, parfois, pose pied à terre et prenne le temps de regarder les choses.
Oui et non. C'est-à-dire que, bon, sur le discours de Descartes, c'est sûr qu'on peut discuter le fait que le point de départ soit lié à l'expérience ou pas. Par contre, sur la méthode en elle-même, elle a quand même prouvé son efficacité d'une certaine façon. C'est-à-dire que la méthode scientifique fonctionne.
Justement, est-ce qu'elle ne fonctionne pas un peu trop bien, quelque part ?
Ah bah peut-être, après, voilà. c'est un autre problème.
Ouais, c'est ça que je veux dire. Est-ce que la pensée scientifique, la façon dont procède la méthode scientifique, c'est pas justement d'oublier plein de choses ? Comme on le disait tout à l'heure, bon, Descartes dit « j'obscurcis certaines choses et j'en mets en lumière d'autres pour mettre en valeur ce que je veux dire ». Est-ce que ce n'est pas ça le problème de la pensée scientifique, telle qu'elle dépend ?
Je ne sais pas. Il y a plusieurs manières de la voir. On peut aussi voir les conséquences sociales des avancées scientifiques.
Oui,
conséquences sociales, certes, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. La science avance beaucoup plus vite que la société, ou plutôt que les habitudes humaines. Et je crois en même temps que Peggy avait cette préscience des conséquences sur la société, voilà. De ces avancées qui pourtant étaient moins rapides à son époque, mais déjà beaucoup plus rapides que ce qui précédait.
Quand même,
Oui, parce que ça, voilà.
Oui, je crois qu'on a peut-être déjà évoqué ça dans d'autres émissions, le fait qu'effectivement l'avancée des sciences, on va dire des technologies et des sciences, effectivement va très vite et va probablement beaucoup plus vite que l'évolution de l'organisation des sociétés, en fait.
C'est ça.
Et c'est ça qui pose problème.
Ça qui pose problème. Et ce qu'on va voir dans les prochaines émissions, c'est aussi le rôle de l'espoir, de l'espérance.
Oui.
Est-ce que la science doit effacer l'espérance ? Est-ce qu'elle doit effacer la grâce ? Quelque chose qui vient du dehors, en fait, pour sauver, pour nous sauver. Oui, Anne.
Non, parce que ce que tu disais était en lien avec, un petit peu avec ce que Peggy disait sur Kant, quand tu parlais du rôle de la grâce.
Oui, c'est pour ça que ça m'a
interpellé. Non, évidemment que rien ni personne ne doit enlever l'espérance, en tous les cas.
Et puis, il faut peut-être préciser que la science n'a pas forcément le même objectif que ce qui peut être lié à l'espérance, en fait. La science, c'est vraiment une idée de description, dans un premier temps, puis après, éventuellement, de contrôle.
C'est le contrôle.
De l'espérance, quand
contrôle, contrôle et espérance, ça ne va pas ensemble.
Non, ça ne va pas ensemble, mais ce n'est pas non plus dans les mêmes domaines.
Pardon, Anne.
On nous la vend comme de l'espérance. Par exemple, comme vous allez vivre plus vieux, ce qui n'est pas forcément un bien,
mais
vous allez vivre avec moins de problèmes de santé, ce qui n'est pas forcément vrai non plus.
Exactement.
Mais on nous la vend comme ça.
Voilà, moi je suis d'accord. Donc voilà, dans cette première émission, on a fait qu'aborder vraiment le tout début, rentrer dans ce texte qui va être extrêmement riche, qui va se déployer dans diverses directions. On explorera ça avec Anthony Feneuil, qui connaît bien Peggy et qui connaît bien Bergson, puisque cette note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne est aussi un dialogue avec Bergson et son travail philosophique. Donc, nous invitons les auditrices et les auditeurs à essayer de se procurer ce texte pour entrer en dialogue avec Peggy. Et puis, nous aurons, nous l'espérons, la joie d'accueillir Anthony Feneuil lors des prochaines émissions pour aller plus loin. Voilà. Merci Anne, merci Sylvain. Et puis, à la semaine prochaine, l'émission prochaine, dans 2 semaines. Au revoir.